J'étais un obsessionnel du football, mais ça s'est arrêté à l'âge de 10-11 ans. J'ai continué à jouer un peu.
Mais c'est pas une idole révoltée, ça, Platini.
En tout cas, je voyais bien que l'équipe de France de 1982 était une équipe de gauche. Parce qu'elle perdait au dernier moment. Il y avait un romantisme épique. Patrick Battiston, c'est quand même une épopée. Ouais. Allez, ça y est, c'est parti pour la déconnade. Si ça commence comme ça... D'abord, je pense que à l'adolescence, j'ai cherché comment m'exprimer. Ça, c'est un verbe auquel je tiens. Exprimer, ça veut dire pousser dehors. C'est-à-dire que je pense qu'à l'intérieur de moi, j'avais des tas de choses, de la révolte, de la colère, de l'espérance, des tas de trucs qui bouillonnaient. Et il fallait que je trouve le moyen de le canaliser, de l'extérioriser. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un chemin pour ça. Je pense que j'écris des pièces de théâtre, ça aurait pu être du théâtre. J'aurais bien aimé faire comme Brel, faire de la chanson. La voie que j'aurais préférée, sans doute, c'est écrire des bons romans. Voilà, tout ça, ça n'a pas marché, ou je n'avais pas de pont qui me menait vers un univers culturel. C'est-à-dire que j'avais personne dans ma famille qui jamais avait été dans le théâtre, dans le cinéma, dans le journalisme, dans l'édition, dans rien, quoi. Et j'avais trop peu de confiance en moi-même pour aller taper à la porte d'un journal, d'un théâtre, d'une société de production ou de n'importe quoi.
Mais tu avais un besoin de reconnaissance fort.
J'avais un besoin d'expression, je dirais.
Plus que de reconnaissance ?
Je pense que dans un premier temps, c'était un besoin d'expression. C'est-à-dire de trouver une forme qui va me permettre de mettre en forme ce qui bouillonne à l'intérieur et de le sortir, quoi. Et ensuite, que ce que je sorte soit reconnu, sans doute. Mais dans un premier temps, il fallait que je trouve la forme qui permettrait de sortir ce que j'avais à poser, quoi.
On va revenir, je pense, largement sur l'écriture, sur la partie écriture, mais tu parles d'autres formes que l'écriture. T'as testé d'autres choses dans ta...
Je fais du cinéma, là.
Ouais, bien sûr, effectivement.
Mais oui, je pense...
Je pensais qu'on était sur la période pré-journaliste, en fait.
Pré-journaliste. J'ai beaucoup écrit, énormément. J'ai écrit des pièces de théâtre, mais... autant dans le cadre familial, il m'est arrivé d'essayer des choses, autant jamais. Je pense que j'avais une très grande honte de moi. Avoir honte de ce qu'on porte socialement. Enfin, la honte est quand même un sentiment hyper puissant dans la société dont on parle peu.
Et c'est honte de quoi, pour le coup ?
D'abord, je pense que j'ai grandi en me considérant comme un bouseux. Tu vois, avec la boue qui colle aux bottes et qui fait que j'arrive à Paris, je me sens pas à ma place, mais je me sens déplacé socialement aussi. Voilà. Donc, n'appartenant pas à des univers sociaux, tu vois, je me souviens d'un truc con, c'est juste ces images qui me traversent, mais une fois où il y a eu mon premier bouquin, Les pistolets du journaliste, qui a dû être accepté par... la maison d'édition Les Arènes, je me souviens de me retrouver face à une porte à Paris, à pas trouver le moyen d'en sortir. Tu sais, parce qu'il faut que tu appuies sur le bouton sur le côté. Et j'étais coincé à l'intérieur, je ne savais pas. Et alors, en ayant honte de demander aux gens comment tu fais pour sortir de là. Et bon, voilà, c'est des trucs nazes. Mais
Ça fait semblant d'avoir un coup de fil très, très important. Je me focaliserai sur la porte tout à l'heure.
mais voilà, je pense que... j'étais d'une extrême timidité. Ça pourrait se caractériser quasiment de manière maladive à l'époque. Et j'avais honte d'aller vers les gens, d'être jugé. Et je pense que tu sais, moi, je cherche surtout à ne pas oublier tout ça. Parce que c'est facile, une fois que tu as le succès, que tu t'occupes une position, d'oublier la fragilité qui t'a habité pendant des années. Et donc, de te mettre à juger les gens qui sont fragiles, qui manquent de confiance, qui sont habités par la même timidité, sachant qu'il y a des facteurs sociaux et tout ça. Quelqu'un qui échoue dans sa vie et qui, voire, a de l'obésité et tout ça, comment il va sortir son corps sur la place publique ? Comment il va se sentir dans le regard des gens ? Et moi, j'étais effrayé par le regard des gens. Des gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas, quoi.
Et donc ça a développé un sentiment très empathique pour les... Un comportement d'empathie pour les gens.
Je pense que c'est... À l'époque, c'est évident que ça produit une identification possible à ceux qui se sentent mal.
Qui souffrent.
Par ailleurs, il y a ensuite le choix de ne pas oublier.
Mais quand on est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, en général, on cherche à plaire. Et on n'a pas forcément un caractère très marqué. On est plutôt dans la flagornerie des autres. On est un gentil. Et en fait, toi, au quotidien, tu n'es plus un gentil, dans le sens où, quand tu es dans l'hémicycle, quand tu prends la parole, tu as une forme d'agressivité, j'ai envie de dire, pour défendre tes idées.
Bon, d'abord, jamais j'ai été dans la complaisance, parce que plutôt j'ai été dans le retrait et le repli sur moi-même, dans l'effacement de la société, plutôt que dans le fait de chercher à plaire en faisant n'importe quoi auparavant. Mais ensuite... Je pense que quand on est dans l'hémicycle comme ça, il faut bien voir le conflit qui se joue en moi. Et je pense qu'il se jouerait en tout individu quasiment. C'est-à-dire que l'école, c'est quand même un lieu d'apprentissage de l'obéissance et de faire pour être dans la norme, tu vois. Et ce n'est pas un lieu de confrontation et de conflit. Et tous les endroits sociaux sont au fond des lieux qui t'enseignent à ne pas être dans la confrontation et dans le conflit. Et là, je sais qu'il y a du bon élève en moi, quand je suis dans l'hémicycle, qui vient me dire de ne pas faire ce que je vais faire. Okay. Tu vois, il y a d'abord un conflit intérieur. En moi, il y a un conflit intérieur de « Non, j'ai pas, ma mère ne m'a pas élevé comme ça. Mais les enseignants, je veux dire, c'est une domestication tout ça. J'ai été domestiqué à ne pas me ruer dans les brancards comme je vais le faire. Et il y a quelque chose qui surgit quand même. Mais ça surgit quelque part malgré, tu vois.
Ça crée quoi en toi, donc juste avant de faire, tes...
Je suis mal avant et potentiellement je suis mal après quoi. Il y a des moments où je sais que je dois le faire. Que c'est une nécessité, tu vois, venir simplement heurter le consensus en sortant un t-shirt à l'Assemblée nationale, c'est un moment où je sens que je ne vais pas être bien, parce que je viens contre la norme, et je ne vais pas être bien. Mais bon, je me dis, allez, je vais le faire quand même. Et puis, il y a des moments où ça se passe malgré moi aussi, où ça devient beaucoup moins contrôlé. Le surgissement
quelque chose de très voilà. Qui vient de là quoi.
Quelque chose de très tripal qui fait que je pense que je retrouve des instincts de classe, de combativité, de trucs qui ont été nourris pendant mon enfance en dehors des espaces de domestication quasiment quoi.
Mais c'est sorti en même temps elle à aucun moment elle t'amuse hein, parce qu'il y a quand même tu te mets beaucoup en scène dans plein de trucs dans tes films,
pas dire
dans
tes mes films ouais. Je considère que je me maîtrise beaucoup mieux. Parce que de ma colère, je sais que la colère n'est pas un sentiment qui va faire que les gens vont s'approcher de toi, qui vont être séduits par toi, qui vont rejoindre tes idées. Je ne pense pas que ça fonctionne trop, la colère. Je pense que la colère, elle peut contribuer davantage à rejeter, à éloigner. Et qu'est-ce que c'est que Merci Patron ? C'est de la colère contre un système, mais qui est, comme par une alchimie, transformée en humour,
ouais, c'est très drôle.
En ironie. Et je veux dire, c'est le travail sans doute des humoristes au quotidien que de faire que de la colère, on en fait autre chose parce que l'humour va en revanche attirer, tu vois.
Oui.
Et donc les colères, ce n'est pas les moments qui sont les mieux contrôlés parfois.
Mais malgré tout, même dans les livres que j'ai pu voir, il y a quand même toujours des touches d'humour. Et j'ai l'impression que dans tout ce que tu fais, il y a toujours quand même un axe d'humour, de décalage.
Je veux. Je veux l'avoir, mais il y a des moments où il se perd en route, quoi. Il y a des moments où, je suis emporté par moi-même, alors que je sais très bien que dans l'hémicycle, je ferais mieux de répondre par une petite touche d'ironie, mais que je ne trouve pas ou que je n'ai pas le sang-froid pour l'avoir à ce moment-là. J'aimerais bien l'avoir, mais non, ce n'est pas ça qui vient. C'est l'espèce de boxeur fou, quoi.
Donc tout n'est pas aussi bien maîtrisé qu'on peut l'imaginer.
Non. Ben non, j'aimerais réagir avec, je voudrais y travailler, réagir avec davantage.
Pour prendre un metteur en scène pour préparer tes.
Je suis un bon metteur en scène, tu vois. Mais il y a des moments où ça dépasse le.
Mais ce qui est amusant, c'est que quand on regarde ça d'un œil extérieur, on a donc l'assemblée, ça se passe entre vous, et puis nous, on en a l'extrait que tu mets sur YouTube en général. Et alors là, tu mets des majuscules, un point d'exclamation, c'est tous les codes du YouTube game. Et puis, tu te fais même reprendre par Véran, hein, qui te dit on n'est pas sur une de vos prises de parole YouTube. Et ça, tu le mets sur YouTube.
Ma question était, qu'a voté la France la semaine dernière à l'OMC ? Et vous n'y répondez pas. Vous n'y répondez pas parce que la vérité, le Figaro lui-même l'écrit. La levée des brevets est fermement combattue par l'industrie pharmaceutique, appuyée par l'Union européenne.
Monsieur le député, nous sommes ici dans l'hémicycle et pas sur une de vos vidéos YouTube. Vous pouvez exprimer votre avis, mais pas considérer que nous serions responsables du virus ou des morts. S'il vous plaît, gardez au moins le peu de décence qu'il vous reste.
Alors que il te fait gronder, en fait. Alors, quoi.
Par contre, le montage de mes trucs YouTube, c'est pas trop moi qui le fais. Okay.
Donc, tu regardes quand même.
Je regarde pas tout, tu sais. Ouais. Je regarde pas tout. Mais bon, de toute façon, à l'Assemblée nationale, c'est devenu un gimmick pour les marcheurs et les ministres de dire c'est pas un cinéma ici, monsieur Ruffin, on n'est pas sur une de vos vidéos, on reconnaît là le metteur en scène. Bon,
c'est... Mais ils te discréditent en faisant ça.
Oui, ils essayent. Bon, je veux dire, d'abord, ils parlent qu'à eux-mêmes, tu vois. Mmh. Donc, il ne faut pas que je sois en permanence piqué par leurs remarques, parce que sinon je vais mourir d'acrimonie, tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, alors là je vais prendre une comparaison qui est complètement mégalomaniaque, tu sais. Mais j'ai lu les écrits politiques de Victor Hugo, et notamment quand il était lui-même parlementaire. Mmh. Et en permanence, qu'est-ce qu'on lui disait ? On n'est pas au théâtre ici, monsieur Hugo. Les grands boulevards, c'est pas ici que ça se passe, et ainsi de suite. Donc de toute façon, au fond, quand il voit apparaître un mode de discours qui n'est pas celui convenu des bourgeois, il vous renvoie à cette forme de disqualification. Je ne dis pas que ma plume soit celle de Victor Hugo, mais je vois le même schéma de disqualification. Je ne vais pas, je vais pas tomber dans leur panneau. Tu comprends,
oui, ce que tu dis, c'est qu'ils représentent le peuple, mais que dès lors qu'on parle comme le peuple, ils ont peur.
Bah, ils ne représentent pas du tout le peuple.
Bah, ils sont censés,
Oui, oui, d'accord, mais bon, ça, ils sont censés. Mais quand tu vois la non-représentativité de l'Assemblée nationale en termes d'origine sociale, donc il doit rester un ouvrier, c'est-à-dire 0,2% d'ouvriers dans l'Assemblée nationale, alors qu'il y en a encore près de 20% dans le pays, quoi. Oui. Donc, bon...
Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que, d'une certaine manière... Tu peux devenir une caricature de toi-même.
Bah si.
Ouais.
Bah, bien sûr.
Et c'est quoi le risque de ça ?
D'abord, c'est de muser moi-même. J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'il n'y a pas le risque de lasser ? Bah, il y a le risque de se lasser d'abord, pour commencer. Donc c'est comment on fait pour renouveler les formes, se renouveler soi-même, se réinventer. Mais toi, quand tu passes tous les jours sur France Inter, enfin combien de fois tu passes par semaine ?
Une fois par semaine.
Une fois par semaine. Bah, il y a le risque de devenir aussi Alexis le Rossignol qui vient faire son sketch, et puis c'est un peu attendu, et puis ça rentre dans la digestion du système, quoi. Donc les formes, elles sont toujours à réinventer. Donc après, il y a des formes codifiées à l'Assemblée nationale.
C'est comme ça que tu es parti sur justement toutes ces formes. Tu as fait, comme tu dis, du cinéma, tu as fait donc du journalisme, tu as écrit un certain nombre de livres. C'est justement pour te renouveler toi, pour essayer de retrouver de l'énergie, pour essayer de varier ton message.
D'abord, il y a plusieurs choses. Quand j'ai démarré le journalisme à Fakir, donc il y a 22 ans maintenant, honnêtement, militant, ça rime avec chiant et c'est pas par hasard. Ouais. Et donc, je savais que moi, j'avais un objectif, c'était de renouveler les formes du journalisme engagé.
Aussi,
Et donc, je disais, il y avait une formule, c'était sérieux sur le fond, drôle sur la forme. En gros, un mélange de marxiste sur le fond et de libertaire sur la forme. Donc, voilà un peu le décalage que j'ai tenté d'entretenir dès le premier numéro de Fakir, qui était quand même... j'aurais dû l'amener. Mais voilà...
Collecteur aujourd'hui.
Oui.
Ça tout seul à l'époque.
Ouais, au départ c'était tout seul, mais je faisais tout seul. Pour te dire de manière obsessionnelle comment j'étais, c'est que je déposais le journal par exemple à la bibliothèque municipale, et comme un pêcheur, j'attendais de voir qui allait ouvrir le journal. Bon, je me souviens d'un mec qui avait ouvert le journal, il le quittait pas et tout ça. Et à la fin, je lui demande si ça lui a plu. Oh ouais, c'était génial. Je lui dis, bon, c'est moi qui le fais. Ah, c'est super, attends, je vais m'abonner. Non, mais est-ce que tu pourrais en prendre 10 numéros, comme ça tu le vends dans ta fac, qui est en fac de pharma. Ouais, pas de problème, je fais ça. Et puis, au numéro d'après, je passe chez lui, chez sa mère. qui me reçoit et qui dit « C'est vous qui nous avez appelé à 2h du matin ?» Je dis « Non, mais attends, ça va pas, j'appelle pas à 2h du matin. Je suis pas dingo. Et puis je respecte les gens. Non, mais c'est vous qui vouliez vendre un abonnement à Fakir ?» Non, 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 je fais pas ça. Elle monte l'étage, elle redescend, elle dit « Voilà, 03 22 33 04 77. C'était mon numéro. Alors là, je me suis dit que ça commençait un peu à devenir grave parce que ça veut dire que j'avais du somnambulisme téléphonique et que je me prenais pour un centre d'appel et que la nuit, je passais des coups de fil aux gens pour les faire s'abonner ou pour leur refourrier des exemplaires. Quoi. Elle m'a filé de la camomille comme son mari était pharmacien.
Ça devient un somnambulisme de pointe, hein. Franchement, si on pouvait faire ça dans le quotidien, ça serait quand même très pratique. Hein.
Tu dors peu, d'ailleurs ?
Je dors peu, ouais.
Ouais, ça m'étonne pas. Si t'es hyperactif, non ? Peut-être pas diagnostiqué.
Je ne suis pas du tout diagnostiqué. Je pense que j'ai mes grosses phases de haut et mes grosses phases de bas. Et okay. Voilà. Mais ouais, il m'arrive de peu dormir. Ouais.
Et tu as des garde-fous, un peu ?
J'ai mes enfants.
Ouais.
Déjà, je pense que c'est mes meilleurs garde-fous parce que je suis condamné... un monocultural le week-end dernier, j'étais condamné à m'en occuper. Donc ça, je veux dire, je suis condamné à décrocher du reste parce que c'est pas possible de t'occuper de deux gamins et de continuer à avoir la même activité à côté. Quoi.
Donc là, quand t'es avec eux,
je fais que ça.
Ouais. T'arrives à te libérer.
Ouais, je sais pas si j'arrive à me libérer l'esprit, mais en tout cas, j'arrive à me libérer le temps. Ouais. Voilà.
D'accord.
Et l'écriture là-dedans, ça te sert aussi de garde-fou justement? Au contraire, ça vient exalter un peu le...
Je suis pas sûr que... J'écris trop, donc je pense qu'on est arrivé au niveau de la graphomanie. Sans doute que ça m'est nécessaire, c'est un temps de retrait qui m'est nécessaire, c'est comme si je faisais quelques pas en arrière et que j'essayais de remettre de l'ordre dans ce que j'ai pu observer, dans mes pensées, et ainsi de suite. Mais en revanche, la rapidité d'écriture, ça devient une manie plus que... contrôler ça.
Ce qui est arrivé, c'est vrai que t'es prolifique. Hein. Enfin, hein, t'es prolifique. Oui, enfin, en tout cas, ces dernières années, particulièrement, j'ai l'impression. Ouais. Le Covid a joué quelque chose là-dedans
Non, le Covid, c'est je ne sais pas, mais depuis que je suis député, bizarrement, j'écris encore plus qu'avant.
Mais c'est l'envie de laisser une trace, sans doute.
Peut-être. Oui, ça, c'est sûr que je pense que. Bon, après, on peut toujours analyser, il doit y avoir la peur de la mort. En tout cas, tout ce qui n'est pas écrit et fixé, c'est comme si dans ma tête, ça n'existait pas. Est-ce qu'il y a un problème pour un politique ? Parce que quand je parle, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Enfin, c'est pas ça qui doit laisser une trace. Or, les politiques, ils laissent plus de traces par ce qu'ils disent et les conneries qu'ils disent et la manière dont ça circule tous azimuts que par... Moi, je considère que mon œuvre, elle est dans mes livres. Et que si on veut voir ce que je pense, c'est dans mes livres et pas dans un entretien que je donne à Libération ou aux entêtés, tu vois.
Et du coup...
C'est une belle phrase qu'on ne mettra pas du tout en titre.
C'est bien, on nous a comparé à Libération, c'est quand même déjà pas mal. Et du coup, dans La France Insoumise, comment... Parce qu'on voit bien que dans l'hémicycle, tu ne fais pas l'unanimité. Et au sein du parti dans lequel tu évolues, comment ça se passe ?
Jean-Luc Mélenchon a eu l'intelligence de me voir comme un électron libre et de me laisser libre comme électron. Et dans ce cadre-là, ça ne pose pas de difficultés. Quoi. Mais voilà... Voilà, j'ai eu dit à un moment, tu sais, moi, un couple, déjà, quand on est deux, je trouve ça beaucoup. Mais alors, un groupe, voilà. Donc
t'as assez peu de contacts avec les autres.
Si, j'ai les contacts. Il y a les réunions de groupe le mardi. Mais de toute façon, il y a une telle surcharge. Vous pouvez voir quand on a un groupe de 17, avec tous les dossiers qui passent à l'Assemblée, tout ce qu'on se chope en circonscription, tout ce qu'il y a à faire à côté, il y a déjà une telle hyperactivité... obligatoire, que de toute façon, c'est pas comme si on avait passé notre vie ensemble.
Mais personne ne chôme alors à l'Assemblée
En tout cas, dans le groupe, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a le temps de chômer.
Parce qu'en fait, si on regarde l'activité François Ruffin sur tous les supports, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, on a l'impression que tu en fais énormément. Et un député qui produirait pas autant de contenu sur les réseaux sociaux, on en est à se demander s'il fait vraiment, alors qu'il fait autant sans doute, mais c'est qu'il le fait moins savoir.
Il y en a qui ne foutent pas grand-chose non plus, ou bien qui font du travail beaucoup plus en circonscription. Après, être un député de la majorité, être un député de l'opposition, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on voit les députés de la majorité, c'est comme s'ils étaient organisés en 3-8, ils ont leur créneau. Y en a, par texte, il y en a un ou deux qui vont parler, et puis les autres, ils se taisent, mais ils appuient sur le bon bouton, puis c'est tout. Quoi. Donc... il y a une organisation qui est plus industrielle.
Ils sont dans la validation, alors que vous, c'est l'amendement.
Ouais. Bon, nous, on peut faire que utiliser ça comme une tribune. Mmh. Donc, bon. Mais après, je ne sais pas, ça va devenir chiant si on s'interroge sur l'utilité de l'Assemblée.
Parce c'est que surtout un long débat, donc nous, on n'a pas les...
On dit que c'est le pouvoir législatif. Il n'y a pas de pouvoir législatif à l'Assemblée nationale. C'est pas là-bas que se fait la loi. La loi, c'est le président de la République qui décide de loi. Elles sont fabriquées techniquement par les ministères. Elles sont enregistrées par l'Assemblée nationale. Mais c'est pas là-bas que se fabrique la loi. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, si c'est pas ça le rôle de l'Assemblée, il faut se demander qu'est-ce que ça devrait être, ces autres rôles. Soit on se dit que ça devrait être le rôle de l'Assemblée, ça y est, ça devient vraiment chiant.
Mais... Non, ça veut dire que toi, tu es en désillusion par rapport à...
Non, je suis pas en désillusion parce que je le savais d'avance. Tu vois, j'avais pas de... Je vais te dire un point sur lequel je suis en désillusion, mais j'avais pas d'illusion sur le fait que la loi ne se fabriquerait pas à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, dans ma profession de foi, on appelle ça entre les deux tours, j'ai écrit un texte en disant « Je vous préviens, ça va pas être Walt Disney ». Je l'ai écrit comme ça, hein, pour mes électeurs. « Je vous préviens, ça va pas être Walt Disney. Je vais sans doute passer aucune loi et peut-être même aucun amendement. Mais je me tiendrai droit pour vous. » C'est la seule promesse que j'ai faite à mes électeurs. Et je pense que je la remplis. Non, un point sur lequel je peux avoir des désillusions. Parce que autant qu'on sache qu'il y a 350 parlementaires de la majorité, donc de toute façon, c'est plié. Mais c'est l'absence de débat. Et moi, c'est quelque chose... Je pensais qu'au moins, quitte à perdre à la fin, mais qu'il y aurait match, tu vois. Et là, au fond, les marcheurs, ils n'ont pas de plaisir de la rhétorique, de joie de l'argumentation. Et moi, j'ai ça. J'aime ça. J'aime chercher des chiffres, des statistiques, des exemples, venir, tu vois, combattre. Oui, éventuellement.
T'as initié une forme de prise limite, de parole liée à l'anecdote qui est très
limite,
drôle.
Maintenant, ils font des ouais, il y a une forme d'imitation. Avant, c'était arrête Ruffin. Après, c'est il fait du Ruffin. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un truc où ils viennent citer des prénoms. Hein.
Et tu fais la méthode de l'entonnoir à chaque fois. Tu pars d'une constatation locale, d'une histoire, et puis tu vas vers ce que tu veux aller.
Mais est-ce que c'est pas plutôt l'inverse?
Un teneur inversé.
Voilà.
Plutôt inversé. Ouais.
Parce que je pars du cas particulier et j'essaye de l'élargir à l'universel, je pense. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire. Et je suis vachement fier, par exemple, tu vois, dans ma production parlementaire, de transformer le genre du rapport. Parce que la première fois que j'ai produit un rapport, c'était sur le burn-out, et l'administrateur me disait « Mais ce n'est pas dans nos convenances, monsieur Ruffin ». J'avais même eu, le samedi soir, avant publication du rapport, un coup de fil du cabinet de François de Rugy pour dire qu'on ne pouvait pas mettre ça dans un rapport. Et puis j'avais tenu bon.
Mais, c'était quoi? C'était un vocabulaire particulier?
Ouais, le fait que les gens ils parlent de manière crue, tu vois. Ouais. Là, dans le rapport sur la jeunesse, il y a des pages et des pages entières de récits de vie, où les gens racontent leur existence. Mmh. Et ce qui, auparavant, était interdit d'entrer dans un rapport parlementaire, la vie elle-même, tu vois. Et de la même manière que je pense que j'ai participé à faire entrer la vie et la parole directement à la tribune de l'Assemblée nationale. Mmh. Ça me fait penser à notre truc, je te citais Victor Hugo tout à l'heure. Mais dans ses écrits politiques, il y a un moment où il va dans le Nord, conduit par un économiste, visiter les taudis ouvriers. Et là, il voit les chiottes. Et il voit la merde. Et ça pue la pisse. Et les gens, ils vivent comme ça dans cette glu. Et il revient pour expliquer ça à la tribune de l'Assemblée nationale. Et finalement, c'est un discours qu'il ne prononcera jamais. Et je pense que c'est un discours qu'il ne prononcera jamais aussi parce qu'ils sont sans le choc entre le populaire qu'il a vu et le lieu bourgeois dans lequel il se trouve. Et il sent que ça va pas passer.
Tu comprends ? Il s'est auto-censuré ?
Voilà, je pense qu'il y a une forme d'auto-censure là-dessus. Mmh. Et donc, voilà, moi j'ai ma fierté, c'est d'avoir introduit ça à la fois à l'écrit dans les rapports et à l'oral à la tribune. Donc le fait que ça soit fait, ceci dit, ça pose des questions pour la suite, parce que maintenant que c'est fait, quoi. Il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre la relève, la voie est ouverte, enfin, tu vois, ça peut devenir une nouvelle manière de faire, donc ensuite, qu'est-ce que tu fais toi-même de nouveau, quoi. Mais...
Tu as changé quelque chose sur ton écriture, en tout cas tes sujets sur lesquels tu as envie d'écrire quand tu as le temps, donc tu te l'accordes, ou est-ce que c'est... Constamment, tu as envie d'écrire autour des sujets qui t'habitent fait de...
Je pense qu'il y avait un passage sur le temps, la gestion du temps. Je veux dire que à partir du moment où je deviens député, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Ouais. C'est du coup, moi qui aime aller voir les gens, et ça veut dire comment je m'octroie des zones de respiration où je ne vais pas être confronté seulement à des porte-paroles, y compris d'associations bienveillantes, écolo, syndicalistes et ainsi de suite, mais qui font quand même une parole qui va être codée, formatée. Et moi, au fond, j'ai ce désir d'accéder à une parole plus directe que je considère sans doute comme étant une certaine forme de vérité, tu vois, un endroit où ça tremble. Donc voilà, c'est comment tu échappes à la rigidité de ton emploi du temps, à la rigidité de l'Assemblée nationale, et comment tu arrives à faire des percées vers le réel, quoi.
Et ce qu'il y a, c'est que nous, on observe que tu prends souvent des positions qui sont liées à l'émotion aussi. J'ai l'impression que ton côté empathique fait que tu peux t'émouvoir de situations et tu rapportes cette émotion dans l'Assemblée face à des gens qui, eux, ont une vision beaucoup plus terre-à-terre parfois, beaucoup plus mécanique, statistique. Et en fait, on voit cette opposition quand on voit, par exemple, aujourd'hui des gens prendre la parole dans les médias. On voit que certains rétorquent à des gens qui vont parler d'émotions une vision complètement chiffrée en fait, de la société, qui fait prendre des décisions plus ou moins froides, j'ai envie de dire. Alors que toi, tu aurais plutôt tendance à ramener et...
Ouais, je pense que je bosse, par ailleurs. Non, mais je le dis, quoi. Et y compris comme journaliste, je pense que j'étais un bon journaliste aussi parce que je bossais. Il y avait ce côté, la parole, mais ensuite, qu'est-ce que ça signifie sur la société? Est-ce que c'est représentatif ou est-ce que ça ne l'est pas? Et ainsi de suite. Et tu vois, quand je bosse par exemple sur la question du RSA pour les jeunes, comme je l'ai fait pendant le dernier mois, c'était un temps où j'étais plutôt heureux parce que j'ai pu être un obsessionnel sur son sujet plutôt que de jongler en permanence. Je veux dire que je pense qu'on effectue un très gros boulot statistique et on vient avec des graphiques, avec une argumentation qui n'est pas seulement liée à l'émotion. Mmh. Il est évident que pour moi, c'est un moteur. Les voix, les vies, les visages, je sache pour qui je me bats. Et je ne vais pas défendre un beefsteak ou une proposition de loi avec la même vigueur si ça reste pour moi au niveau du concept la précarité ou si c'est Damien qui ne peut pas changer son appareil auditif. Mmh. Tu comprends ?
Oui, donc,
à partir du moment où c'est incarné, j'ai ce besoin d'incarnation pour moi. Mais je pense que la politique a besoin de cette incarnation. Tu vois, Merci Patron m'a presque reproché à gauche l'incarnation. C'est-à-dire que ça ne soit pas du combat général, des statistiques, mais ça vienne s'incarner dans l'éclure, Bernard Arnault, l'oligarchie. Mais pour moi, c'était des représentations d'archétypes. L'éclure, figure populaire, Bernard Arnault, figure de l'oligarchie, et moi, au milieu, la classe intermédiaire, tu vois. Mais, donc, j'ai besoin de ces... Jamais je me serais bagarré pour aller gratter des trucs à Bernard Arnault si jamais je n'avais pas rencontré l'éclure et il n'y avait pas eu ces silences pour expliquer qu'ils n'avaient pas de quoi manger, tu vois. Mais de la même manière, d'avoir rencontré les étudiants qui ont du mal, vont bouffer que des pâtes, c'est une chose, mais ont plus de licence, peuvent plus payer de licence pour le sport, mettre tout leur budget dans le logement, doivent bosser le matin avant d'aller à la fac, bon, peut-être tout un truc comme ça, mais même voient leur horizon rétréci. Parce que dans ce temps où normalement on devrait pouvoir aller voir au moins le reste du pays, eh ben, il n'y a pas de locomotion, il n'y a pas de lieu d'atterrissage, il n'y a pas sans doute la confiance en soi qui permet d'aller vers d'autres régions et ainsi de suite. Tu vois. Et si jamais je ne suis pas habité par ça, je vais m'éteindre vite dans ce lieu qui est un été noir à l'Assemblée nationale. Et donc heureusement j'ai cette flamme qui a été allumée par ces rencontres. Mais c'est appuyé par des chiffrages, par, au fond, ce qui présente être comme du pragmatisme, qui est juste une autre folie. Mmh.
Je vais revenir juste un peu sur tes choix de production, que ce soit livre, film et tout ça. C'est des sujets qui viennent plutôt à toi, ou ça s'impose, ou alors à un moment tu te dis non, je vais... Alors, je prends l'exemple de Merci Patron qui me parle, qui je pense pas du tout le même, qui n'a pas la même origine que pour le film Je veux du soleil. Je veux du soleil, je pense que tu n'avais pas le choix, c'était maintenant que ça se jouait aussi, donc il faut y aller, quoi. Merci patron, c'était une rencontre un peu hasardeuse, tu disais quand même, avant que tu te saisisses de toute l'histoire de ces gens-là. Est-ce que c'est, ou au contraire, c'est toi un moment qui avais fait la démarche pour aller là-dedans ?
Merci patron est beaucoup plus construit. Parce que merci patron, en fait, je fais, comment on appelle ça ? Tu sais, quand on va faire, j'en fais jamais, là.
Du soil élastique, avant. Je sais pas, que tu fais jamais.
Quand tu fais un documentaire, apparemment, tu vas faire des repérages, excusez-moi.
C'est un peu large, c'est vrai, le choix était large pour nous quand même. Hein.
Du baby-foot.
C'est bon, baby-foot. Mais donc, du repérage, j'en fais pas. Mais là, en 2007, j'avais fait une série d'émissions de ma radio sur Bernard Arnault, pour Daniel Mermet, à la Bastille J'y suis. Donc, qui était quand même un gros moment de formation pour moi, Mermet. Hein. En 2012, je quitte la Bastille J'y suis pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec l'émission. Je suis, en semi-dépression, quoi. Je ne vais vraiment pas bien. Et je me dis, dans ce moment où je ne vais pas bien, il faut que je fasse un film comique. Pour te sortir toi-même, tu vois. Et donc, je décide de repartir d'un sujet qui apparemment n'est pas comique, mais que je maîtrise, Bernard Arnault, tu vois. Et en me disant, bon voilà, je vais partir et je vais faire I Love Bernard. C'est le moment où Bernard Arnault décide de mettre sa fortune en Belgique. Finalement, ça va capoter et tout ça. Mais je me dis, bon voilà, je connais le bonhomme par cœur. Allez, je me saisis du sujet et je vais retourner voir, en fait, les gens que j'avais rencontrés en 2007, quoi, avec qui j'avais continué à avoir des contacts.
Donc, c'est la famille.
5 ans plus tard.
C'est une respiration pour toi, intellectuellement, ou c'est un moment où tu as besoin justement d'utiliser des sujets que tu maîtrises bien pour pouvoir te consacrer à autre chose et chercher une autre énergie ou...
Bah, d'abord, je suis obligé, ça me force à faire. Ouais. À un moment où, tu sais, quand tu es en déprime, tu peux avoir les bras ballants et rester au lit, quoi. Je caricature, mais... à faire drôle en plus.
Donc, en fait, Bernard Arnault t'aide à aller mieux.
Oui, mais c'est clair que, voilà, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si je dois le remercier. Je dis toujours que moi, j'ai été sauvé plusieurs fois par les livres et par les gens. Les livres que je lis ou que j'écris et par les gens que je rencontre. Parce que tu vois quelqu'un et il te redonne de l'envie. Quoi. En fait, quand l'envie s'éteint, c'est là que c'est mort.
Quoi. Mais c'est quelle envie qui s'éteint en toi, en fait, si c'est, tu dis depuis quelques phrases là que ça retombe chez toi.
Oui, bah c'est l'envie de créer, mais du coup c'est l'envie d'exister, quoi. Enfin, tu vois, tu peux juste avoir envie de te foutre dans un trou. Je peux pas dire de disparaître maintenant que j'ai 2 enfants, mais tu vois, tu peux être saisi par quelque chose de très sombre.
C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas tout à fait commun, quoi.
Ouais, je sais pas.
Et c'est ce qui, en fait, c'est un peu ton moteur.
C'est un moteur, c'est sûr. Donc, il y a la crainte de retomber là-dedans qui fait que je me bouge le cul. Je pense qu'il y a aussi une faible considération pour soi qui fait que je suis obligé en permanence de créer pour retrouver de l'estime de moi-même. Tu vois pour mon essence, je pense que j'ai pas de grande fierté. Mais en revanche, je peux avoir de la fierté de ce que je produis. Et donc, en permanence, je me retrouve, chaque fois que je ne vais pas bien, à me dire que je vais produire quelque chose pour redevenir un peu fier de moi. Quoi. Okay. Bon, voilà. C'est un drôle de moteur, ça.
Non, mais c'est amusant parce qu'en fait, c'est y a sans doute une peur de l'ennui aussi.
Ouais.
Et puis, des bases qui sont finalement fragiles, on se dit les choses.
Oui, c'est clair. Clair. Et alors, la peur de l'ennui, je pense que je me suis tellement emmerdé. Entre mes 17 et mes 24 ans, au moment de lancer Fakir, en gros, je pense que je voyais la vie comme étant une autoroute qui me menait à la mort, quoi. Mais où j'allais éprouver de l'ennui. Et le fait de sortir de l'autoroute, de lancer mon journal, fait que j'ai accumulé tellement de peur de l'ennui qu'en effet, ça me fait faire des choses...
Ouais, mais c'est comme tu dis, c'est bien lié à la dépression aussi sur l'aspect réactif.
C'est ça, une espèce d'énergie accumulée aussi.
Et tu étais plutôt solitaire alors, étant ?
Très.
C'est marrant quand même d'avoir une démarche qui est complètement... qui t'oblige à t'exposer, d'aller vendre ton journal toi-même à la criée, d'aller dans l'hémicycle, pas à la criée mais presque. On revient toujours à ce côté un peu fort en gueule, qui n'est pas ce que tu es Intrinsèquement, en fait.
Non, bah après, tu sais, ce qu'on est intrinsèquement, je ne sais pas ce qu'on est, parce que je pense que j'avais déjà une espèce d'audace des timides qui faisait qu'à des moments, je pouvais sortir de ma carapace pour y rentrer aussitôt après. Et quand tu as fait ça pendant maintenant, ça fait 22 ans que je fais ça, dire que ce que je suis aujourd'hui intrinsèquement, peut-être que j'ai peur à nouveau de redevenir ça, mais en tant qu'essence, je ne sais pas si je suis... Ben,
tu vois. Et tu as des potes de jeunesse?
Pas trop, non.
Pas trop?
Non.
Ok.
T'as des potes?
J'ai beaucoup de camarades, tu vois.
Et... Camarades de combat, des camarades
mais
de...
C'est vrai que je me suis habitué à être avec les gens quand je faisais quelque chose avec eux. Donc, il y a des tas de gens que j'ai plaisir à voir, mais très vite va venir la question de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. J'ai besoin d'inventer quelque chose avec les gens.
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui s'emmerdent dans une soirée où il n'y a pas vraiment d'objectif?
Si c'est exceptionnel, ça va, mais si c'est régulier, ouais.
Donc, on construit ensemble, sinon...
Souvent, ouais. Quoi. J'aime bien... mais même, ça peut être faire un jeu de société, ça peut être faire du sport, ça peut être... Voilà, mais j'ai besoin qu'on fasse quelque chose.
Qu'il y ait un but, quoi. La terrasse, c'est pas trop ton truc?
Non. Mais je pense que, au bout d'une demi-heure sur la terrasse, on aura trouvé un truc à faire, quoi.
J'ai écouté ça dernièrement, dans une de tes vidéos, d'ailleurs, je pense. Quelqu'un, une dame, te reprochait... de ne pas être très présent à l'Assemblée. Alors, tu lui as répondu et on voit bien que tu l'es plus que de nombreux députés. Mais d'utiliser le temps qui t'était accordé en tant que député et l'argent associé, alors que tu fais plein de dons par ailleurs, pour mener tes films, pour écrire tes bouquins, pour faire en fait des choses personnelles. Quoi.
Ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être député et à quoi ça sert. Donc, est-ce que ça sert à être dans un lieu où finalement tu ne fabriques pas la loi et où tu peux être relativement inutile bien souvent, ou est-ce que c'est une espèce de porte-voix et il y a peut-être des endroits où la voix, elle porte mieux qu'à la tribune de l'hémicycle parfois, tu vois. Et donc, moi, je pense que je suis un porte-voix. Donc, il y a des moments où c'est peut-être dans les entêtés qu'on doit porter la voix. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais par sympathie, je pense, à l'émotion.
Non, mais là, forcément, elle n'a pas vu tes films pour pouvoir dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas l'utilité sociale des films que tu produis.
Je pense que c'est d'abord pour moi, c'est une nécessité. Enfin, le film Je veux du soleil, tu vois, au départ, je n'avais pas prévu de faire un film. J'avais prévu de traverser la France. Tu n'étais pas encore avec nous, Mélanie. Non. J'avais prévu de traverser la France pour écrire un bouquin, tout seul. Et justement, en n'ayant pas de caméra collée au cul. Parce que... des caméras, tu vois, je vais pisser, j'ai une caméra, quoi. Où je fais un live Facebook. Bon.
Enfin, ça, personne t'oblige à le faire.
Mais voilà, c'est comme ça que, bon. Et donc, je me suis dit, hop, là, je vais aller voir les gens, juste prendre des notes, et je reviendrai pour écrire un bouquin sur la France sous Macron, en gros. Et là, je croise Gilles dans un couloir qui me dit, bon, mais on va bouffer au self, tu veux pas que je t'accompagne? Il me dit, oh non, les caméras, j'en ai plein le dos, je veux pas de ta caméra, et tout ça. Bon, et puis après, je sors du repas, puis je dis, c'est peut-être pas si con quand même. Ouais. Et donc là, on était le mercredi, le samedi me rejoignait et on partait pour 6 jours.
Ouais,
je pense que c'est
sans budget.
Sans budget, rien du tout. Et puis voilà, en 6 jours de temps, parce que la situation historique, elle fait qu'il y a des moments où les gens parlent, alors que tu pourrais les suivre pendant des années et jamais te raconter 10% de ce qu'ils racontent dans ce film-là, parce que c'est des moments d'expression, tu vois. Et en fait, allez, ça y est, c'est parti. Tu vois, dans le prochain film que je sors, là, de Boulet Femmes, je pense que...
On a le titre, déjà.
Ouais. mais il y a un modèle de ce que je rêve, quoi. Au début, je prends la parole pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une prise de parole. Ensuite, elles viennent discuter avec moi. Et enfin, c'est elles qui prennent la parole. Et je pense que c'est ce dont je rêve, d'être un libérateur de parole, tu vois. Mais ça demande que, d'abord, on parle pour les gens. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne se voient même pas eux-mêmes, parfois. Ils ne voient pas ce qu'ils pourraient avoir à dire. Tu vois, là, sortir de mon moi sur la jeunesse, au fond, ce que je trouve le plus déprimant, c'est peut-être pas, même pas les réponses du gouvernement. C'est que la jeunesse elle-même ne se rend pas compte de toutes les raisons qu'elle a d'être révoltée. Et que finalement, il y a une forme d'acceptation. Il y a une habitude du malheur, tu vois.
Ouais, une forme d'apathie, quoi.
Ouais, d'apathie, mais même, c'est comme si c'était devenu la norme, ouais. Comme si ça appartenait au paysage et que ça appartenait au paysage pour soi-même. Et donc, il faut quasiment qu'il y ait de l'extérieur. Des gens qui viennent dire, mais regardez, est-ce que vous pensez que c'est normal pour vous? Et que les gens, ils se regardent un petit peu à l'écart et disent, mais non, c'est pas normal. On a le droit de parler et de produire ce réveil de la parole dans un premier temps, quoi. Il n'y aura pas de réveil politique s'il n'y a pas d'abord un réveil de la parole.
Moi, je regarde souvent les commentaires qui sont associés à tes vidéos. Il y a une espèce de fanatitude autour de toi. Il y a des vrais fans. C'est-à-dire que quand un homme politique traditionnel ou plutôt classique va prendre la parole, il va recevoir des « merci pour ça », etc., ce que tu reçois. Mais il y a aussi des « Ruffin, on t'aime »,« lui, je l'aime trop », des partages… Non, mais c'est vrai, qui sont plutôt de l'ordre du registre de la célébrité artistique, musicale ou ce que tu veux. Comment tu vis ça, en fait? Est-ce que tu les lis ou pas? Et est-ce qu'il n'y a pas un côté grisant qui peut être dangereux?
Oui, je pense que j'ai bien réussi à m'en prémunir. Enfin, ça va, tu vois, le fait que j'ai annoncé très vite que je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle, ça voulait dire que j'ai tenu à distance le côté fan club qui veut te pousser et pas forcément te pousser toujours au bon endroit. Maintenant, la vie... Cette vie est faite quand même d'assez de coups, de critiques, de méchanceté, pour que les gens qui te passent de la pommade en disant qu'ils t'aiment, tu peux le prendre aussi. Ben oui.
Non mais quand on est idolâtré, eh ben la peur de décevoir est d'autant plus importante.
Oui, c'est possible. Ouais. Bon, mais ceci dit, tu vois. Il y a des tas de trucs sur lesquels je peux être inquiet. Je ne suis pas inquiet de ce que je suis politiquement. Tu vois, c'est pas comme... Je ne suis pas... Tiens, tu vois, j'aurais pu devenir célèbre, vraiment connu. Je dis devenir Yann Barthès à la sortie des Petits Soldats du journalisme. Tu vois, parce que le bouquin, il avait fait un énorme buzz. Libé me proposait de faire la quatrième de couverture et je l'avais refusé. J'étais invité dans les Grosses Têtes, c'est refusé, chez Ardisson, machin. Et j'ai eu comme des garde-fous à cette époque-là qui m'ont conseillé de ne pas plonger là-dedans, tu vois, plonger dans cette célébrité. Okay. Et je pense qu'il y, y aurait eu un vrai risque pour moi à l'époque d'être complètement digéré, récupéré, et ainsi de suite.
En plus.
Voilà, jeune. Je pense que j'arrive quand même là-dedans à 45 ans, en ayant fait pendant 22 ans mon journal, en ayant mené des combats, en ayant entendu des gens différents, tu vois. Et donc j'arrive dans cet univers à un moment où je suis, je pense, beaucoup moins transformable et digérable. Tu comprends ?
Tout à fait.
Mais est-ce que... tu pourrais revenir à une forme d'anonymat complet.
Je sais pas, ça serait peut-être compliqué, il faut dire la vérité, quoi. Il y a des moments où tu le désires, je veux dire, tu désires te planquer.
Ou parfois on s'en prévaut, en disant « non mais moi, la célébrité, ça me fait rien, etc. »
Mais je pense pas que ce soit vrai. Tu sais, quelle heure il est, parce qu'il faut quand même... Allez. Non, la vérité, c'est que je l'ai recherché. Tu vois, c'est pas venu par hasard. Je dis pas que tu mènes tous ces combats-là seulement pour ton ego. Mais moi, quand on me dit, ah ouais, à l'Assemblée nationale ou chez les politiques, il y a de l'ego et tout ça, mais attends, quel artiste, quel politique, quel chanteur, quel peintre peut dire, moi, j'ai pas d'ego? C'est pas vrai. Tu vois, tout le monde a de l'ego. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de son ego? C'est ça la vraie question. Et moi, je veux.
Je crois que l'abbé Pierre avait des posters de lui dans sa chambre.
Non, mais l'ego ne contraint pas à être narcissique, tu vois. Mais voilà, il faut en effet avoir une forme d'orgueil de ce que tu as envie de porter dans la société pour te bouger le cul tous les matins avec des tas de gens qui te disent que ça ne sert à rien, que c'est nul, que tu ne vaux rien. Enfin, tu vois,
tu ne te voiles pas la face en disant qu'il y a une part d'ego, c'est tout, quoi.
Non, il y en a une. Il y a de l'orgueil et tout ça. Mais même, tu vois, je sais que quand les premiers temps j'ai été député et que je croisais les gens dont je voyais dans le regard qui me reconnaissaient, je pense que ça produit quelque chose sur le plan endocrinologique, tu vois, d'être reconnu.
Okay.
Tu parlais au début du désir de reconnaissance, je pense qu'il n'est pas nul le fait de vouloir être reconnu pour ce qu'on fait, tu vois. Et donc voilà, donc, il est certain que c'est un moteur humain. Je ne dis pas que c'est le seul. Moi, je le dis, ce qui me porte, je ne mènerais pas des combats avec cette ardeur si je n'étais pas habité par des vies, des voix, des visages.
Oui, mais en fait, si on en revient au tout début de la discussion, si tu avais été un très bon joueur de foot, on n'aurait peut-être pas eu de Ruffin politisé, ni journaliste.
C'est pas sûr. Tu vois, en dehors de Batiston, je pense que dès l'enfance, je suis rentré en classe de 6e, je me prétendais communiste, sans savoir ce que c'était, quoi. En toute honnêteté, mais je voyais que ça faisait chier le monde. donc voilà, je pense que très tôt, j'ai eu des lumières
qui ont été
allumées d'une forme de dissonance sociale, quoi. Mmh. Bon, faut que j'y aille.
Okay.
Bah oui, on en a parlé du temps.
Désolé. 7h29, on est bien. Faut pas que vous traîniez, quoi. Voilà. Merci à François pour être passé nous voir. Merci à toute l'équipe de Blonde.
Ah, tu reviens un peu tôt.
Non, c'est bon, ça va aller.